Et du coup, on va essayer. Moi, ce que je voudrais vous proposer, j'ai fait tout un tas de fiches avec des présentations très, très recherchées, très écolières, mais je me dis que c'est l'occasion de transformer cette rencontre en une vraie rencontre. C'est l'occasion pour vous aussi de poser les questions. Alors, le titre de la rencontre est IXO Taille Unique. Vous savez que les éditions IXO sont la maison d'édition invitée cette année. Le salon souhaite faire découvrir chaque année une maison d'édition. Et cette année, vous avez une maison d'édition pas banale. Et en plus, la directrice générale, Edith Leblond, qui est avec nous, qui est là à bord de la maison d'édition dès le début, en 1999, quand l'éditeur Bernard Fixot crée cette maison d'édition, IXO Fixot, vous voyez déjà, on a le nom, avec un titre ambitieux à l'époque, c'était de publier, je parle sous votre contrôle, peu de titres, 20 à 25, afin de mieux pouvoir suivre les auteurs et afin de mieux pouvoir pousser les livres pour que le public les découvre, pour qu'ils soient adaptés au cinéma. Et donc c'est comme ça que la maison d'édition a commencé l'aventure il y a quelques années, avec cette ambition de mettre en valeur des raconteurs d'histoire, un peu comme Alexandre Dumas, la tradition française des raconteurs d'histoire du 19e siècle. Et c'est un pari réussi, parce qu'au catalogue IXO, Edith Leblond nous le dit là tout à l'heure, je vous passe l'introduction, il y a aujourd'hui des noms très connus, des noms que vous avez tous lus. Il y a aussi Christian Jacques qui est avec nous, la littérature jeunesse et young adult, et pour les jeunes qui est représentée avec des auteurs qui publient des séries vendues dans le monde entier. Mais il y a aussi, vous le savez, le numéro 1 des ventes en France aujourd'hui, Guillaume Musso au catalogue, et bien d'autres noms encore. Donc aujourd'hui, nous essayerons avec Edith Leblond, la directrice générale, de voir un peu quelle est cette maison d'édition, quelles sont ses ambitions, quelles sont les projections pour le futur. Et puis nous profiterons de la rencontre pour découvrir l'univers de Christian Jacques. Et là, je compte sur vos questions, parce que je suis certaine que vous l'avez tous lu, et que si vous êtes là à 13h30, c'est bien parce que c'était l'occasion de le rencontrer. Et puis, un univers, là, nous parlerons aujourd'hui de ce livre-là que vous avez peut-être déjà eu entre les mains, « J'ai construit la grande pyramide », et puis de celui-ci que moi, j'ai seulement en format journaliste. Je n'ai pas la couverture, parce qu'il sort seulement le 1er septembre. Vous l'avez à la dédicace ?
Il doit être présent.
Il est peut-être déjà présent. La malédiction de Toutankhamon, c'est une enquête policière. Donc, ah bah voilà. Je suis désolée, moi je l'ai juste comme ça. Vous voulez pas me le prêter, ça va être plus joli, parce que merci beaucoup.
Faudra le récupérer.
Voilà, faudra après. Penser à le récupérer parce que. Et puis j'en ai juste un des Suzanne Hopper. Anne Plichota et Sandrine Wolfe ont publié, sont fait connaître déjà avec une série qui a cartonné. C'était d'ailleurs votre première au Sanapol. Vous nous en parlerez. Et puis nous parlerons évidemment de votre dernier. Mais d'abord, je vais donner la parole à Edith Leblond pour nous parler un petit peu du début de votre maison d'édition. J'ai évoqué rapidement, j'ai lu à droite à gauche, j'ai cru que c'était un peu cela l'objectif, les objectifs que vous étiez fixés avec Bernard Fixot. Mais dites-le nous, comment c'était et comment on débute une aventure comme ça de création d'une maison d'édition, parce que lorsque vous débutez en 99, vous êtes loin de savoir que vous serez 10 ans, 20 ans plus tard, IXO.
Pardon. Est-ce que ça marche ? Oui. Bonjour à tous et merci. Nous sommes très heureux et très honorés, IXO et nos auteurs, d'être mis à l'honneur par le Salon de Morges. Ces salons littéraires sont toujours des moments extrêmement forts pour nous, parce que ça veut dire beaucoup pour le livre, et nous sommes heureux de constater que le livre a une vitalité extraordinaire en France, en Suisse, que c'est aujourd'hui le premier secteur de l'industrie culturelle. Je trouve que c'est toujours intéressant de rappeler que le livre est très largement le média culturel le plus prisé par les Français, loin devant l'image. Et voilà, très rapidement, donc je vais essayer de vous raconter, c'est assez difficile pour moi, mais je pense que Christian m'aidera puisqu'il a participé au démarrage de l'aventure, avec la pierre de lumière, et d'une certaine manière, il a posé la première pierre de la maison XO. J'aime beaucoup ce mot de maison parce que voilà, nous sommes une famille, nous aimons nos auteurs et nous essayons de faire en sorte qu'ils rayonnent dans le, évidemment en France, mais dans le monde entier. Alors évidemment, cette aventure, elle a été extrêmement... Enfin, c'était un moment très fort dans nos vies d'éditeurs. On ne peut pas parler de XO sans, bien sûr, parler de Bernard Fixo, puisque cette maison est totalement liée à la personnalité de Bernard Fixo, qui est un éditeur pour le moins original, on va dire. Un grand amoureux des livres, c'est un... Très rapidement, donc, c'est un autodidacte. Qui a, enfin, dont le livre a complètement changé la vie. À l'âge de 13 ans, il découvre la lecture et il sait que le livre ne le quittera pas et que son ambition très, très vite sera de se mettre au service des auteurs. XO, c'est né d'un constat en fait, fait par Bernard Fixo, qui était se dire, mais au fond, la littérature française rayonnait dans le monde entier au XIXe siècle, occupait une position majeure, et il faisait le constat que le XXe siècle, la littérature anglo-saxonne finalement avait pris le pas sur la littérature française. Et son ambition, c'était précisément de remettre, de renouer avec la tradition des grands raconteurs d'histoire, dont font partie Christian Jacques, Anne et Sandrine Wolff. Et pour cela, il a imaginé un modèle totalement innovant, c'est-à-dire l'idée de publier très peu de livres. Pourquoi ? Pour pouvoir s'en occuper à fond, vraiment les travailler dans tous ces aspects, en faire de grands succès en France et, dans un deuxième temps, essayer de les faire connaître du monde entier, comme ça l'avait été le cas par le passé pour certains grands auteurs. Vous avez cité Alexandre Dumas. L'international, bien sûr, et également le cinéma, l'audiovisuel, qui est aussi un axe de développement de la maison XO aujourd'hui. Donc notre histoire a commencé avec Christian, mais je pense qu'on va en parler maintenant.
Enfin, voilà, je vais justement vous poser la question. J'avais fait une petite introduction que je vous lirai tout à l'heure pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, parce que votre vie aussi, votre aventure littéraire est en elle-même un roman. Christian Jacques, avec cette visite de l'Égypte, un voyage de noces à 17 ans, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais je voulais, puisqu'on parle d'abord de la maison d'édition, que vous nous rappeliez, parce qu'avec Max Gallo, vous faites partie des premiers auteurs de cette maison d'édition. Quelle a été votre rencontre avec Bernard Fixo? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'était pas votre premier livre?
C'est vrai que la rencontre avec Bernard Fixo, ma première rencontre, a été extrêmement brève. Je déjeunais avec l'un de ses bras droits à l'époque, et puis nous avions donc rendez-vous pour le premier rendez-vous avec lui. Car je sortais de toute une série d'aventures éditoriales avec des livres qui avaient commencé à être des succès à peu près. Bah écoutez, l'année prochaine ça fera 30 ans puisque c'était Champollion l'Égyptien, le premier livre qui a été aimé du grand public. Puis il y a eu des passages par Grasset, par d'autres éditeurs, et à cette époque-là, Bernard Fixo était président de Lafon. J'ai eu la chance aussi de connaître Robert Lafon, qui était un homme assez passionnant, il faut bien le dire, et qui a marqué l'édition française. Et puis, Bernard Fixo voulait me rencontrer, et un de nos amis communs, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Claude Gagnère, qui dirigeait les éditions France Loisirs, et qui a fait beaucoup pour le livre aussi, beaucoup pour le livre grand public, m'a dit, écoutez, vous êtes deux personnalités assez particulières, et ça serait bon que vous vous voyiez. Bon, pourquoi pas? Et donc j'arrive dans son bureau, je le vois pour la première fois, et il me dit, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et là, je lui dis, Ramsès, 5 volumes. Et il m'a dit, d'accord. Voilà, ça a été notre première rencontre.
Il fallait quand même oser, parce qu'à l'époque, annoncer d'emblée, oser de sa part d'éditeur, je veux dire, de vous publier, parce qu'annoncer 5 volumes, direct, Ramsès, un sujet qui ne passionne pas les foules comme ça, en 5 volumes tout de suite.
Et puis alors surtout, si vous voulez, 5 volumes, c'est l'horreur pour un éditeur, ça.
Parce mais oui. Que...
On se dit, le premier, ça va aller, le deuxième, moins, le troisième, puis le cinquième, on ne rendra plus rien. Ça a été... Ramsès n'a pas bougé.
Pour la petite histoire, Ramsès, c'est à ce jour 11 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Donc c'était...
À peu près. Voilà, à peu
13,
près.
Pardon, voilà. 13 millions d'exemplaires, donc c'était un pari audacieux alors, mais...
C'était un pari fou. C'était un pari fou, mais ce qui s'était passé, c'était que... Écrire Ramsès, pour moi, c'était quelque chose de très important, mais je ne pouvais le faire qu'après avoir vécu beaucoup d'expériences en Égypte, après avoir vécu une bonne partie de ma vie, parce que il fallait s'attaquer finalement à un pharaon qui a régné 67 ans, qui est mort dans 92-93. Bon, donc il fallait quand même avoir vu pas mal de choses avant de pouvoir oser s'attaquer à cette personnalité. Et je m'étais étonné en disant, mais c'est étonnant, personne n'a jamais écrit sur le plus grand, enfin sur le plus connu de tous les pharaons égyptiens, à tel point qu'il y avait d'ailleurs un sondage, et il semblerait que ce soit l'homme politique, entre guillemets, connu, le plus connu dans le monde, Ramsès II. Donc, et bien voilà, et là on a démarré effectivement cette aventure, voilà, ça a démarré très exactement comme ça. Et puis, puisqu'on parlait des éditions UXO, bon, après cette formidable aventure qu'on avait vécue chez Lafon, et Ramsès a fait effectivement le tour du monde, quoi, ça a été traduit je ne sais plus combien de langues, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que j'ai rencontré Bernard, on a eu un entretien privé, très privé, où il m'a annoncé qu'il voulait fonder sa maison d'édition. Et vous parliez de Max Gallo, effectivement, on a été les deux premiers auteurs, parce qu'il disait, bon, je veux commencer avec des gens, oui, des grands raconteurs d'histoire. Maintenant, si un roman n'est pas une grande histoire, c'est autre chose. Mais de mon point de vue, je me souviens à l'époque, un journaliste m'a dit, est-ce que je vous insulte si je vous appelle l'Alexandre Dumas de l'Égypte ancienne ? Ben, j'ai dit, si on peut graver ça sur ma tombe, je serais très très content. Parce que quand on a lu le Comte de Monte Cristo, je crois que. Et d'autres, bien sûr, mais enfin, celui-là reste pour moi le plus grand roman jamais écrit. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire, je veux dire, parce que voilà un homme qui était à la tête d'une des plus grandes maisons d'édition françaises, qui est Robert Laffont, qui avait quand même déjà sous son règne à cette époque-là connu de très grands succès, et qui tout à coup veut se lancer dans une aventure complètement folle, qui est de créer une maison d'édition et de la mettre au rang des autres, quoi, des plus importantes. Alors, comme c'était une folie, ça m'a beaucoup plu, et je lui ai dit d'accord. On y va. Et là, nous nous sommes lancés dans un projet encore plus fou que Ramsès, qui s'appelait La Pierre de Lumière. Alors, La Pierre de Lumière... Pour ceux qui l'ont lu et puis pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'idée, je voulais raconter l'histoire des artisans qui ont conçu, bâti, construit et décoré de leurs mains toutes les tombes de la Vallée des Rois, c'est-à-dire parmi les plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Et Bernard m'a dit, alors ça c'est le génie de Bernard Fixot, c'est effectivement comment on commence à voir autour d'un livre le faire connaître. Voilà, ça c'est quelque chose de très très important pour lui. Et il a dit, ben, on va faire ça en Égypte. On va faire le lancement en Égypte. Alors je lui ai dit, Bernard, là, vous rêvez debout, je connais bien l'Égypte, c'est impossible. Vous ne ferez pas venir 300 journalistes en Égypte, vous ne ferez pas venir des caisses de champagne. On pourra. moi, ce que j'aimerais, c'est de faire un grand dîner dans le temple de Louxor. Tout ça, c'est impossible. Ben, il me dit, non, ce n'est pas impossible, on va l'organiser. Je crois qu'il a quand même pris quelques rides. Et l'équipe est dite en tête aussi, parce que ça pourrait être écrit. Ça pourrait être écrit pour être très rapide, pardon, mais pour citer quelques anecdotes. Bah, quand on connaît bien l'Égypte, l'hôtel que nous avions loué pour les journalistes avait bien entendu été loué à d'autres personnes. Et donc, deux jours avant, moi j'étais là évidemment avant que tout le monde arrive. J'ai dit, Bernard, on n'a plus d'hôtel. Bon. Alors, il a fallu résoudre le problème. Et ensuite, je crois que la plus jolie chose, ça a été la veille de ce grand banquet. Alors nous avons emmené les journalistes sur le Nil, on leur a fait visiter les tombes de tous ces créateurs extraordinaires. Je leur ai fait visiter les lieux. Bon. Et c'était des moments assez étonnants, parce que là, j'étais plus auteur, j'étais égyptologue, j'étais conférencier, j'étais tout ce que vous voulez. Bon, les journées étaient dures, hein. C'était assez dur, il y avait des journalistes du monde entier. Alors le matin, il y avait les Hollandais, après il y avait les Italiens, après il y avait les Brésiliens. Donc, il fallait être jeune et en bonne santé. Voilà. Bon. Et puis la veille, oui, c'était il y a longtemps. Et alors la veille de ce grand dîner dans le temple de Louxor, le problème c'est que nous étions au mois de mars, et qu'au mois de mars, c'est pas les tropiques l'Égypte, les nuits sont fraîches. Et là, il y avait un petit vent du désert venant de Libye. Il ne vient pas que des bonnes choses de Libye, vous le savez. Et ben, il faisait 14 degrés. Donc impossible avec toutes ces dames en robe du soir, en décolleté, toutes les autorités de faire dîner 300 personnes à 14 degrés. C'est la pneumonie pour tout le monde. Vous êtes accusé de meurtre, après c'est épouvantable. Bon, et j'appelle Bernard Fixot et je lui dis, écoutez, faut annuler parce qu'il fait froid. Tout simplement, il fait froid, on ne pourra pas dîner dehors. Alors il me dit, qui est le dieu du vent en Égypte? Ben, je lui dis, c'est le dieu Amon. Il me dit, écoutez, c'est votre spécialité, vous connaissez les dieux. Alors, priez-le, faites votre boulot, et on n'annule pas. Alors, effectivement, j'ai pris mes textes, parce que je ne voyage jamais sans mes prières, bien sûr, sans mes textes, et je fais une prière au dieu Amon, et le lendemain, le vent de Libye était tombé, il faisait 18-19, c'était agréable, pour les Américains, il faisait même quasiment trop chaud, et nous avons donc dîné dans le temple de Louxor. Voilà. Et alors, je me souviens, dernière anecdote, j'étais le dernier à parler, puisque évidemment on se rendait un certain nombre d'hommages, on remerciait un tel, et on m'a dit, bon alors moi je prends la parole le dernier, et je fais des remerciements, j'ai dit je remercie deux personnes pour ce moment extraordinaire qu'on ne revivra sans doute plus jamais, bien sûr. Je remercie les deux propriétaires qui nous ont accueillis ce soir, c'est-à-dire Ramsès II et Amenhotep III, qui sont les deux propriétaires de cet endroit, qui veulent bien nous accueillir pour ce banquet-là. Voilà, ça c'est une des plus belles aventures éditoriales qu'on a pu vivre avec Bernard Fixot. Et je sais que d'autres auteurs XO ont aussi eu cette chance d'être soutenu par un éditeur qui veut faire lire. Je crois que Bernard a toujours eu une obsession en lui. Ça datait de sa jeunesse, parce que quelque chose de très intéressant chez cet homme, c'est qu'il a fait aussi tous les métiers du livre. Il a été représentant, il sait comment on fabrique un livre, il sait ce que c'est qu'un service de presse. Moi aussi, j'ai fait tout ça. Et je trouve que c'est très, très intéressant, même pour un auteur, de savoir tout ce qui se passe dans un métier. Nous sommes en Suisse. L'apprentissage est une très, très grande vertu de ce pays. Et il y a de très grands entrepreneurs qui ont d'abord été apprentis, qui ont traversé comme ça tous les métiers. Donc c'est une maison d'édition très particulière, j'en ai connu beaucoup d'autres. Celle-là, pour moi, elle est sur le terrain. Elle est proche des lecteurs. Elle s'intéresse aux gens. Alors évidemment, c'est pas très bon pour les prix littéraires, parce qu'on n'a pas les cercles d'intello qui nous permettraient...
Vous vendez trop de livres aussi.
Et puis alors,
c'est sans doute une des raisons.
Ça, c'est très embêtant.
Je vais me permettre une petite parenthèse, mais on a la sensation, vu de loin, qu'un auteur qui vend beaucoup de livres, une maison d'édition qui en vend beaucoup de livres populaires, est tout de suite un petit peu snobé, sous prétexte que, je ne sais pas, que les gens aiment le lire.
Mais c'est-à-dire que c'est très français. Honnêtement, c'est très, très français. Dans d'autres pays du monde, vous ne rencontrez pas ça du tout. Hein. Mmh. Bon, avec Ramsès, moi, j'ai oublié de faire un peu le tour du monde, d'aller voir des éditeurs un peu partout. C'est un peu le contraire. C'est vrai que quand je vendais 5000 exemplaires de mon premier roman, il y a bien longtemps, j'étais un assez grand auteur. À partir de 30 000... ça devient un peu suspect. Ça devient un peu suspect... Ça peut être considéré comme vulgaire, et un jour, c'est vrai, on m'a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des caissières de supermarché qui lisent vos livres? Vous voyez où je suis tombé? Alors ce jour-là, comme je suis un homme qui essaye, j'avais un petit tout petit peu envie de mettre mon poing dans la figure du journaliste, mais je me suis un peu retenu quand même. Et là, je ne comprends pas ce genre de réflexion, parce que c'est au contraire merveilleux. Ça veut dire que quand un auteur peut être lu par un enfant, parce que ma plus jeune lectrice a 7 ans, et ma plus vieille a 99. Voilà, j'ai fait un peu mieux que Tintin, je suis content. Bon, et je trouve que étonnant qu'un enfant de 7 ans, et qui m'a écrit, ait pu lire des livres que je ne trouve, pour ma part, pas si faciles que ça. Mais il semblerait que... Et j'ai beaucoup de parents qui m'ont écrit comme ça, en disant, mon enfant ne lit rien, mais avec vous, ça passe. Alors, moi, ça m'étonne beaucoup, hein, parce qu'une fois de plus...
Parce que c'est la découverte, parce que c'est le suspense aussi.
Peut-être, la façon de formuler les choses. On me dit très souvent qu'une fois qu'on est rentré, on ne peut plus sortir. Quoi. Bon, on continue, voilà. Donc, je crois qu'au contraire, quel doit être l'idéal d'un éditeur ? Ben, d'abord, pour les auteurs, c'est extrêmement agréable d'avoir beaucoup de lecteurs. On n'écrit pas pour ses lecteurs. Ça, c'est peut-être quelque chose... Je n'y crois pas, ça. Moi, je n'écris pas pour un lecteur. J'écris pour le sujet. Il faut qu'un sujet me prenne, m'habite, je dirais presque me hante, que ce soit une passion absolument dévorante et que je n'ai pas d'autre solution que d'écrire ce livre. C'est d'abord comme ça que ça naît un livre. Ensuite, s'il y a plusieurs dizaines de milliers de lecteurs plutôt que 3, je suis extrêmement content parce que ça me permet aussi de faire mon métier, tout simplement. Et puis, de les idées que je veux répandre, ou la civilisation que je veux défendre, ou l'idéal que je voudrais exprimer, qu'il soit partagé par beaucoup de gens, c'est absolument merveilleux. Mais alors, le mot peuple, populaire, c'est épouvantable. D'être un écrivain populaire, c'est épouvantable. J'assume. Je m'y suis fait avec le temps. Je m'y suis fait avec le temps. Et puis le temps jugera aussi. Le temps jugera, car si vous saviez ce qu'on a pu écrire sur des gens comme Alexandre Dumas, mais vous liriez ça aujourd'hui, vous seriez stupéfait, parce que c'était le dernier des derniers. Alors que les 10 romans géniaux de la rentrée littéraire, qu'est-ce qu'il va en rester ? Parce que voilà, c'est toujours la même histoire. Un auteur... Qu'est-ce que c'est qu'un auteur ? C'est quelqu'un qui a une vision du monde. C'est quelqu'un qui... Il a un univers. Est-ce que cet univers peut s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir ? Ça dépend effectivement des lecteurs. Une fois que le livre est écrit, il leur appartient totalement. Et c'est eux qui le réinventent, qui le voient à leur manière. Je trouve que dans l'art, il y a un exemple incroyable. C'est Vincent Van Gogh qui aujourd'hui est admiré à juste titre par le monde entier et qui a vendu un tableau. Simplement, à son époque, il n'y a pas eu la coordination entre la possibilité qu'il soit vendu, acheté et connu, mais ça ne l'a pas empêché de peindre jusqu'à la fin de ses jours. Et moi, si je n'avais pas eu de succès, j'aurais quand même écrit jusqu'à la fin de mes jours. Alors, merci à mes lecteurs, merci à vous qui êtes ici, merci aux éditeurs aussi qui font tout un travail. Et puis après, c'est un peu la magie, c'est un peu le miracle, et ça permet de continuer à écrire des livres.
Ben nous en parlerons justement de magie et de miracles avec ces deux livres que j'ai ici aujourd'hui. Mais je vais passer la parole aussi à nos deux autres auteurs qui représentent un autre genre littéraire, qui représentent aussi un autre type d'auteur XO, parce qu'Anne Pilchota et Sandrine Wolf ont connu le succès, j'ai presque envie de dire un succès foudroyant, parce que votre série, l'histoire de cet ado de 13 ans, Oxapolo, a fasciné tout de suite. Vous n'étiez pas, je crois, avant... il me semble que vous aviez déjà écrit, mais vous n'étiez pas connu du grand public du tout. Vous avez, je vais vous présenter, parce que pour ceux de nos auditeurs qui vous connaissent un petit peu moins rapidement, Anne, vous avez 47 ans, vous êtes née à Dijon, vous habitez en France entre la Vendée, Dijon, Bordeaux, Besançon, et j'ai juste ces villes-là, moi, mais il y en a d'autres. Vous avez fait des études de langue et culture chinoise, vous avez séjourné quelque temps en Corée et travaillé en Chine. Un parcours pas banal aussi. Vous avez eu plusieurs métiers également, prof de chinois, aide-soignante, écrivain public, bibliothécaire aujourd'hui. Vous avez beaucoup de passion. Vous avez une fille de 15 ans qui occupe beaucoup de votre temps et qui vous a peut-être aidé à imaginer cette série. Je vous laisserai nous parler un petit peu plus de votre parcours, parce que lorsqu'on lit votre fiche, on se dit qu'il y avait assez peu de choses qui vous prédestinaient à ce succès foudroyant. Et là, c'est encore le talent de Bernard Fixot, d'éditeur. Et Sandrine, je vous présente également en même temps, avant de vous donner la parole. Vous avez 46 ans, vous êtes née à Colmar, vous avez fait des études de sport et vous travaillez dans le milieu socio-culturel au sein des quartiers dits difficiles. Vous nous expliquerez comment vous travaillez. Vous vous consacrez aujourd'hui entièrement à l'écriture, vous vivez à Strasbourg. Évidemment que vous êtes obligé de vous consacrer à l'écriture parce qu'on vous attend après chacun des livres. Vos lecteurs vous attendent et puis je crois que vous échangez aussi beaucoup avec vos lecteurs. Alors je vais vous demander à vous aussi, avant de parler du livre et de la série, de nous raconter un peu comment vous êtes tombé dans la marmite d'auteurs à succès des éditions XO.
Mais c'est vrai qu'on a un parcours un petit peu atypique puisqu'on a commencé en auto-édition. On a eu quelques difficultés, je dirais, à trouver un éditeur au départ. On avait écrit notre livre, voilà, comme avec beaucoup de passion, beaucoup d'entrain, d'espoir aussi. Et le livre, voilà, pour le faire exister, on avait besoin d'un éditeur. Donc on a envoyé notre manuscrit. On a beaucoup attendu des réponses qui ne venaient pas ou alors qui revenaient de façon très impersonnel, sans aucune indication. Donc c'est à la fois pas étonnant, mais désespérant malgré tout, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on envoie un manuscrit, on met tout notre espoir. En fait, c'est comme si on confiait notre avenir à quelqu'un. Et ces retours sont cruels, surtout quand ils ne sont pas argumentés. On est un peu dans le désarroi. Étant à deux, puisqu'on avait écrit ce premier roman à deux, on se soutient énormément. Je pense que seul, on ne serait peut-être pas arrivé là où on est aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que là, on s'est stimulé, on s'est dit, écoute, il y a peut-être un moyen de faire les choses autrement. Et à partir de là, on a créé notre maison d'édition, mais uniquement pour publier Oxa Pollock. Et on a fonctionné en auto-édition, c'est le terme consacré, pendant 2 ans et demi, où on faisait absolument tout. En fait, on couvrait toute la chaîne du livre, donc de l'écriture à la diffusion, à emmener les bouquins chez les libraires avec notre petite charrette, faire les factures, la promo. Enfin, c'était beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire, parce qu'il y a énormément de choses dans l'édition qui sont c'est réservé à des professionnels. Donc nous, on débarquait un petit peu comme ça, on regardait comment les choses se faisaient, comment l'architecture, en fait, un peu le processus. Donc on copie, on colle à notre échelle, notre minuscule échelle. Mais voilà, on a essayé de fonctionner comme ça pendant 2 ans et demi. Ça a très bien fonctionné. On travaillait en même temps, à plein temps. Donc c'était un petit peu difficile de concilier les deux. On avait un lectorat qui commençait à grossir. Et un jour, les lecteurs ont pris le... En fait, ont voulu nous venir en aide, comprenant qu'on s'épuisait. Ont eu peur de nous perdre, en fait, puisqu'on avait annoncé notre série en 6 volumes. On en était au 3e. Ils nous ont sentis vraiment, vraiment épuisés et ont décidé de prendre les choses en main. Et c'est là où la première magie a opéré, je dirais, où les lecteurs ont pris le pouvoir. Parce que les lecteurs ont un vrai pouvoir. On vous prend, je veux dire, globalement, voilà, pour vous êtes passif, en fait. Vous recevez ce qu'on vous donne. La seule action, en fait, la seule décision que vous pouvez prendre, c'est le choix que vous allez faire parmi les livres sur les tables des libraires. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un passif, en fait. Voilà, vous recevez. Et là, eux ont pris les choses en main et ont décidé de frapper à certaines portes, notamment portes de journalistes, puisque certains avaient compris que c'était aussi un peu le nerf de la guerre, les médias. Donc des journalistes se sont intéressés à l'histoire, heureusement pour nous, notamment une journaliste du Nouvel Obs, et qui a fait un papier sur ce que les ados aiment lire aussi. On met parfois beaucoup de moyens sur des livres qu'ils n'aiment pas forcément, qui ne marchent pas forcément, mais en tout cas qui sont beaucoup et très bien médiatisés. Et puis eux avaient ce livre-là auquel ils tenaient, ils nous suivaient, ils avaient déjà une fidélité qui était installée, et un vrai lien. Et c'était juste dire, écoutez-nous, écoutez ce qu'on aime, écoutez ce qu'on veut. Et à partir
de
là,
ça a marché aussi beaucoup grâce à Internet.
Tout à fait.
C'est comme ça qu'ils ont pu se
tout à fait. On échangeait énormément. C'était un peu notre vitrine aussi professionnelle par rapport aux libraires. Et puis ça a permis en fait à toute une communauté de lecteurs déjà de se constituer avec des vrais liens d'affection entre eux. Voilà le côté un peu fan qu'on peut retrouver pour notre plus grand bonheur. Et c'est vrai que nous, de l'autre côté, on échangeait énormément avec eux, ce qu'on fait toujours d'ailleurs aujourd'hui. Mais à partir de là, c'est vrai que cette entr'ouverture, en tout cas sur les médias, nous a permis d'attirer l'attention. Il y a eu un buzz à partir de là, avec une vraie polémique entre des adultes et des ados. Où les adultes faisaient la morale en fait aux ados en disant « oui, mais quand un livre n'est pas édité, c'est qu'il n'est pas bon ». C'est une part de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Il y a une part de chance, une part de bons moments, de bonnes rencontres, de bonnes étoiles. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour qu'un livre soit édité. Il y a des mauvais livres qui sont édités aussi, voilà, et comme des bons qui passent complètement inaperçus. Voilà, il y a quelque chose aussi qui nous échappe à nous en tant qu'auteurs. Et à partir de là, on a été contacté par plusieurs éditeurs, dont l'équipe XO, qui était... vous avez été les plus rapides, en fait. C'est pour ça que j'aime bien, parce que Christian Jacques parlait de brièveté. Et nous, c'était extrêmement rapide aussi. Entre le moment où on a envoyé les livres à la responsable éditoriale de l'époque et le moment où on a eu notre premier rendez-vous avec Bernard Fixot, ça a été un laps de temps d'une quinzaine de jours à peine.
Et en fait, c'est vraiment une famille, parce que c'est pas une personne qui lit les livres. Là, c'est tout le monde. C'est ça qui est incroyable, quoi.
Le premier rendez-vous, on arrivait, on était attendus. Et on n'était pas attendu que par la personne à qui on avait envoyé le livre nommément. On était attendu par Edith, je me souviens, par Bernard, qui n'était pas très loin, par Caroline. Voilà. Et je me suis sentie bien, en fait. Il faut dire qu'aller chez XO, c'est, en tout cas pour quelqu'un comme moi, c'est une épreuve. Parce que c'est très haut, c'est au 47e étage.
De la tour Montparnasse.
Et c'est insupportable. Voilà, de se mettre dans cet ascenseur et de se hisser si haut et d'avoir un panorama sur la ville entière. Pour quelqu'un comme moi qui suis quelqu'un, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, mais je suis quelqu'un de très simple et de aussi facilement impressionnable. Donc c'était quand même c'était une expérience très particulière. Et malgré tout, malgré ce côté parisien, ce côté haut, exactement. Je me suis sentie à l'aise.
Oui, puis Bernard Fixot, c'est un homme qui a une gueule, quoi. C'est pas n'importe qui. Enfin, il est imposant. Il vous regarde droit dans les yeux. C'est un peu le Père Noël, en fait, quand je le regarde, parce qu'il est tout blanc et tout bleu.
Ouais,
il a des yeux incroyables.
Mais en même temps, vous le vendez très bien, parce que là, nous avons tous envie de rencontrer Bernard Fixot depuis tout à l'heure. À moins que vous organisiez un quart depuis Morges pour qu'on visite le 47e étage.
C'est un homme incroyable, parce qu'il vient de loin, parce que...
Il n'a pas oublié, surtout, moi, ce que j'ai aimé.
Il n'a pas oublié qui il est, d'où il vient, et moi, j'aime les gens qui ont chié comme ça et qui deviennent des grands et peut-être le plus grand. Et c'est du respect.
En fait, on l'a senti tout de suite, cette simplicité. Je pensais être impressionnée par l'envergure. J'avais lu, bien sûr, des choses sur lui avant de le rencontrer, qui m'ont encore plus impressionnée. Et en fait, j'ai senti tout de suite cette simplicité et on s'est tout de suite entendu. Je pense que c'était très bref. On a dû se voir peut-être une demi-heure. Voilà, c'était...
Juste, on a essayé de vous garder à déjeuner.
Je sais, on s'est sauvés.
Elles se sont sauvées toutes les...
Et en fait, ce qu'on a fait, c'est... On est descendu de la tour et on a couru autour de la tour. On a fait un jogging, quoi.
On a fait peut-être 50 fois le tour de la tour Montparnasse.
En fait, on était super stressés, quoi.
Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'est immédiatement compris. En fait, on avait la même vision des choses et la même vision de la littérature. Moi, j'ai une infinie estime pour la littérature, parce que je pense qu'elle m'a sauvé la vie à bien des moments. Elle m'a consolée de bien des mots. J'ai une reconnaissance infinie et j'ai compris le pouvoir des mots, comme j'ai compris le pouvoir des lecteurs. Et j'ai senti que Bernard avait ça en fait en lui, voilà ce côté simple, de pas prendre la littérature pour quelque chose d'élitiste, quelque chose de sophistiqué, mais de prendre ça pour ce que c'est, en fait, quelque chose de beaucoup plus basique, de beaucoup plus émotionnel, affectif, passionnel, ce qui est une facette qui est parfois oubliée dans la littérature française, où on est très narcissique, on se regarde beaucoup le nombril et on développe autour de son nombril. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'aime raconter des histoires. J'aime qu'on m'en raconte et j'aime en raconter. Et là, j'ai trouvé immédiatement quelqu'un qui avait exactement la même envie que moi, avec cette simplicité, avec de l'honnêteté, du respect pour le travail bien fait. Et ça, on l'a senti, on n'avait pas besoin de rester 3 heures pour le comprendre, en fait. Ça s'est fait instantanément. Voilà. Et l'après-midi, on signait, on reprenait le train le soir avec notre contrat, premier contrat d'édition. Et j'ai beaucoup aimé parce que Bernard a dit « Bon, je pense qu'on va faire un premier tirage à 50 000 exemplaires. » Je savais quand même un petit peu comment ça fonctionnait dans l'édition. Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais non, Bernard, c'est trop. » Là, il a dit quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est peut-être ça le plus décisif. Il a dit « À partir de maintenant, vous occupez d'écrire vos livres, moi je m'occupe de les vendre. » Et ça, j'ai aimé parce que pendant 2 ans et demi, on a vraiment, vraiment beaucoup transpiré pour vendre des livres. On se représentait ce que ça pouvait être. Et j'ai aimé finalement cette répartition qui nous proposait, avec ce côté ambitieux. Voilà, je me suis dit, il sait. En fait, c'est quelqu'un à qui on peut confier son travail, le travail de plusieurs mois, on peut confier son énergie, on peut confier sa confiance, tout simplement. Donc, je ne connais pas d'autres éditeurs, hein, il est le premier et le seul. Voilà, il y a une reconnaissance, une gratitude et puis une fidélité que j'ai envie de voir perdurer, en fait. Ouais.
On va parler aussi un petit peu de vous, parce que le temps file très vite. Moi, je passerai bien l'après-midi ici avec vous, mais j'enchaîne les rencontres chez Boyard, donc il faudra que je finisse vraiment à l'heure. Je voudrais qu'on parle de Doxa Pollock aussi. Qui est cette fille, Sandrine, puisqu'on vous a moins entendu? Alors, qui est Oxa?
Bah, Oxa, c'est une jeune fille ordinaire au départ, hein, sauf qu'un jour, elle découvre qu'elle a des pouvoirs extraordinaires. Et en fait, c'était important. En fait, cette idée est venue comme ça, dans mon bain. En fait, on avait très envie, toutes les deux, d'écrire des choses. Alors, on avait déjà goûté un peu à une sorte de BD. Hein, et comme Anne est quelqu'un qui parle beaucoup, elle est très bavarde, hein, les bulles, hein, c'était pas suffisant. Donc, voilà, il y a eu cette espèce d'idée, ce flash, on en a parlé. Hein, et le lendemain, c'était un 1er janvier, donc c'était les bonnes résolutions, et notre résolution, c'était sous forme de pari, peut-être.
Oui, c'est pourquoi pas. Allez, on essaie, je me suis dit, on va peut-être tenir 20 pages. Hein. On était parti sur un plan très complexe, avec un découpage en 6 volumes. C'était très ambitieux, et surtout pour un premier écrit, je crois qu'on ne se rendait absolument pas compte de... Mais en fait, au bout de 20 pages, c'était 50 pages, 100 pages, 600, 700 pages. C'est venu d'une façon tellement naturelle et tellement ample et illimitée que, voilà, moi j'aime les longs récits comme ça, des histoires de longue haleine. Donc c'est vrai que ça complique aussi la tâche pour trouver un éditeur. C'est beaucoup plus difficile de convaincre quelqu'un sur plusieurs volumes, encore plus sur vous sur 5, nous c'est 6, ce qui était un peu déraisonnable en fait. Sauf que nous, voilà, on avait la matière. Bernard a compris qu'on avait la matière aussi. On aurait pu aller au-delà d'ailleurs. Après, c'était un choix de se concentrer sur d'autres histoires. Mais c'est vrai qu'on a eu cette liberté de pouvoir mettre ce qu'on voulait, comme on voulait. Bernard nous a suivis, Bernard et toute l'équipe. Quand je dis Bernard, c'est vraiment toute l'équipe, parce qu'en fait, vous êtes vraiment tous indissociables de lui. Voilà, il faut un conducteur, mais il est indissociable. Enfin, voilà, toute l'équipe est indissociable. C'est vrai que c'est la famille avec un grand F. Et tout le monde, en fait, connaissait le livre, connaissait Oxa, les personnages, chacun avait ses préférés. Il y a une espèce d'unanimité comme ça qui vous réconforte terriblement, parce que vous n'avez pas seulement l'impression d'être un écrivain qui va rapporter de l'argent, vous avez l'impression d'être quelqu'un et d'être reconnu comme quelqu'un, comme un artiste, comme quelqu'un qui crée. Et ça, c'est un sentiment qui vous donne une énergie folle et qui vous ouvre des portes que vous n'auriez même pas eu idée d'ouvrir. Et c'est vrai que moi, le côté série comme ça, c'est quelque chose d'assez... C'est un peu flippant quand même, parce qu'il faut tenir, il faut avoir le souffle pour retenir sur des séries.
Mais de quelle manière écrivez-vous ensemble? Comment vous vous organisez?
On fait la structure, on s'amuse beaucoup, même avec des Playmobil, à faire des scènes. Tout ça, on le fait vraiment ensemble, on parle beaucoup. Voilà, une fois qu'on a la structure, le scénario, chapitre 1, on oralise la scène qu'on va écrire, puisqu'on a déjà la structure. Anne commence toujours, c'est jamais moi, c'est toujours elle, commence à rédiger cette discussion, et elle écrit en noir, elle m'envoie le texte, et un peu comme les peintres, on fusionne. Moi, je fusionne du rouge sur son noir. Et quand tout devient noir, c'est que c'est OK. Et on avance. Donc maintenant qu'on se connaît bien, on avance plus vite. On travaille mieux, peut-être. Voilà. Alors, des fois, c'est rapide. Des fois, ben oui, on gueule un peu parce que parfois, on pense avoir la bonne idée. Mais en fait, c'est ça qui nous plaît. C'est ce travail à deux. C'est vraiment un travail de partage. On travaille pas tout seul, et faut faire confiance faut avoir confiance en l'autre, en tout cas, et savoir des fois. Voilà, moi je suis un peu chiante, donc des fois elle me calme, et voilà, et moi j'ai besoin qu'on me calme, en fait. Voilà.
Est-ce que on va dire deux mots rapidement sur Susan Hopper, les Forces Fantômes. Je vais vous laisser le faire, parce que moi, j'ai peur de dévoiler. Alors, avec un général à la vie des livres, j'ai horreur de parler des livres, parce que je sais que vous allez le lire, et je ne veux pas vous gâcher le plaisir de la découverte, de la lecture. On va essayer pour donner un peu une idée, de le faire très brièvement. Susan est une orpheline, elle trouve enfin une famille d'accueil, les Hopper, tout paraît beau, tout paraît rose, jusqu'à ce qu'une malédiction familiale vienne troubler les plans. Moi, je vais m'arrêter là pour ne pas trop dévoiler, parce que j'ai peur de me faire disputer par l'auteur ou l'éditeur. Qu'est-ce qu'on pourrait dévoiler du livre sans en dévoiler trop?
Je pense que l'aspect fantastique, malédiction, est quelque chose d'accessoire. C'est quelque chose qui permet à Suzanne de découvrir qui elle est réellement et d'accepter en fait ses origines. Je crois que l'essentiel du livre est plutôt déporté sur les rapports entre Suzanne et les autres. Suzanne, c'est un petit animal sauvage en fait, qui est très instinctive. Elle n'a pas appris à aimer, elle n'a pas appris à recevoir de l'amour.
Il y a une très grande violence,
oui,
on trouve,
oui,
dès
oui.
Le début dans cette petite fille.
Elle a une détermination aussi, oui, à trouver la bonne famille à laquelle elle raccroche le parfum perdu de sa mère. Et là, voilà, quand elle aura trouvé le parfum, c'est le signe que cette famille sera la bonne. Et effectivement, c'est ce qui arrive. Mais ce côté apprendre à aimer et à être aimée, c'est vraiment, je crois, l'essentiel de ce livre. Elle ne sait pas recevoir de l'amour, elle sait encore moins en donner. Et elle a affaire à une femme, donc la femme qui l'adopte, Hélène, qui est une femme très bourgeoise, très dans les conventions, voilà, qui est très pudique. Voilà, chez les Hopper, on ne montre pas certaines choses.
Elle ne sait pas faire avec les
sentiments. Voilà, elle ne sait pas faire. Il y a beaucoup de maladresse de part et d'autre. Et malgré tout, il y a une volonté de s'apprivoiser mutuellement. Ce que ces deux, la jeune fille et la femme, font. Il y a le jeune garçon aussi de la famille, où là, il y a la connotation amour-amoureux aussi qui entre dans la vie de Suzanne de façon un peu déstabilisante. Et c'est vraiment ça, c'est le côté apprentissage, la difficulté d'aimer un enfant qui n'est pas le sien aussi. Est-ce que c'est possible? Et comment le mécanisme en fait de tout ça, la pudeur qu'on peut mettre parfois dans les signes d'amour, d'affection, une pudeur qui parfois peut tout gâcher. ou tout enrichir, ça dépend. Il y a toujours une espèce d'équilibre comme ça entre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est comme ça qu'on fait, est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire. Suzanne est toujours dans ce questionnement. Jusqu'à ce qu'elle devienne un peu plus naturelle, un peu plus elle-même, où elle arrive à ouvrir un peu les vannes et les barrières de sécurité, je dirais, et accepter de recevoir, en tout cas. Oui.
Est-ce que Sandrine, moi je me suis posé la question en découvrant votre personnage, est-ce que votre travail dans les quartiers dits difficiles vous a aidé, vous a inspiré pour construire cette fille qui, au début, en tout cas, est assez, avec les guillemets, mais le mot qui me vient, est brute de décoffrage. Elle est un peu ça au début du livre, ouais. Avant que...
Bah, je pense qu'on se sert aussi de ce qu'on est et de notre vécu, de...
Enfin, en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y a une vraie volonté d'essayer de comprendre aussi pourquoi cette jeune fille a cette forme de violence en elle. C'était... Je me disais ça au tout début, mais c'était dès les premières pages, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, c'est comme si l'auteur connaît réellement son personnage, en fait. Ça me faisait un peu cette sensation-là.
Ouais, mais en même temps, moi, j'écris que... c'est des sensations, donc...
Et puis c'est des choses qui sont familières.
Vrai
qu'on se hasarde pas sur des choses... Alors, si elles sont inconnues, on va chercher à les comprendre et à mieux les connaître. Mais c'est vrai qu'au départ, en tout cas pour constituer le départ d'un livre, on se sert de choses qui nous tiennent réellement à cœur, qui nous sont proches ou qui sont proches de gens qu'on aime ou de situations qu'on a rencontrées. On y met énormément de nous-mêmes. Alors après, cette part-là est totalement invisible en fait pour les gens qui ne nous connaissent pas. Nous, on sait exactement ce qui nous appartient.
C'est ça qui est bien, en fait.
Ce qui nous appartient. On se cache beaucoup. De la même façon, dans Oxa Pollock, on a mis énormément de choses, de situations réelles. Je peux vous en citer une qui est assez anecdotique, mais qui est absolument véridique. Ma grand-mère était ukrainienne, donc est venue en France pendant la guerre. Donc, elle a rejoint toute une communauté d'Ukrainiens à Dijon. Et quand j'étais petite, elle m'emmenait très souvent aux rencontres entre Ukrainiens, après la messe orthodoxe et tout. Donc, tout le monde se réunissait, parlait ukrainien, dont je ne comprenais rien. Ils buvaient beaucoup, ils pleuraient, ils chantaient. C'était une espèce de grand théâtre comme ça, de choses très mélodramatiques qui m'échappaient totalement. J'avais 6-7 ans et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Donc je me posais beaucoup de questions. J'étais très timide, donc je ne posais pas ces questions. Je me les posais à moi-même et je trouvais en moi-même les réponses qui étaient toutes très, très farfelues. Et en l'occurrence, c'était dans les années 70. Je m'étais imaginé que ces gens, dont ma grand-mère, étaient des espions venus de l'Est et qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État pour renverser les infâmes... soviétique, et pouvoir enfin reconquérir un pays qui a été perdu. Thème qu'on retrouve beaucoup dans Oxa Pollock, la terre perdue et retrouvée, la notion d'exil. Et dans Oxa, c'est vrai qu'on a mis cette scène intégralement où Oxa entend des bruits chez sa grand-mère, s'approche, ne comprend pas ce qui se dit, et regarde par le trou de la serrure. Alors, changement d'époque, c'est vrai que les espions russes ne sont plus vraiment à la mode. Et là, Oxa, par contre, elle s'est imaginée que c'était la mafia russe et que sa grand-mère était une grande Manitou de la mafia russe. Donc, c'était une façon de transposer. Mais ça, c'est des choses absolument authentiques et dont on arrive à créer une histoire, parce qu'en fait, nos propres histoires sont des histoires en tant que telles. Quelqu'un qui vous raconte sa vie dans le train, ce qui m'arrive quasiment tout le temps. Je m'en sers parce que c'est des histoires extraordinaires à chaque fois. C'est la fiction, la réalité, je n'y crois pas en fait. Je pense que la fiction n'existe pas réellement. C'est un mythe, la fiction, c'est pas possible.
Oui. Je vous coupe parce que le temps file très vite et je trouvais, ça m'amusait beaucoup, parce qu'en vous écoutant, je vous trouvais un point commun avec Christian Jacques. D'abord, les origines un peu de pays de l'Est, parce que Christian Jacques, je crois que vous êtes né en 47 d'un père pharmacien d'origine bretonne et d'une mère d'origine polonaise, pas très loin de l'Ukraine. Et puis ce qui m'amuse, c'est que vous aussi, vous êtes élevé par une grand-mère exceptionnelle, si exceptionnelle qu'elle en devient elle aussi personnage de roman. Je ne sais plus dans lequel de vos romans on la retrouve, votre grand-mère.
Alors, ma grand-mère, vous la retrouvez dans la collection de romans policiers, les enquêtes de l'inspecteur Higgins.
Oui, je fais des transitions un peu tirées par les cheveux.
Voilà, ce cher...
le dernier.
Voilà, ce cher Higgins qui habite un vieux manoir de famille dans le Gloucestershire.
Merci de le prononcer à ma place.
Voilà. Avec des vieilles pierres. Ah, amateur de Vixo, de très bons vins. Alors là, oui, c'est vrai que ça, c'est un peu autobiographique, ça peut-être. Et il a une gouvernante très particulière qui a ce qu'on appelle la main verte, qui sait élever toutes les plantes, qui a un chat et un chien aussi insupportable l'un que l'autre, mais grand gastronome l'un et l'autre. Et elle c'est l'âme de la maison, quoi. Et alors, notre cher inspecteur, qui est quand même le meilleur né de Scotland Yard, doit quand même un peu filer doux sur les horaires de déjeuner et de dîner. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Mais c'est une formidable cuisinière. Voilà. Et alors, moi, ma grand-mère était très particulière parce qu'effectivement, elle élevait... des poissons exotiques, elle élevait des hamsters, elle élevait des chiens, des chats. Bon, une enfance merveilleuse. Et c'est normal qu'elle se retrouve dans les romans.
Est-ce qu'on va dire deux mots, sans les dévoiler non plus, de ces deux derniers ouvrages? Moi, j'ai construit la Grande Pyramide, vous le connaissez déjà. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui l'ont déjà lu ou pas. C'est la pyramide de Khéops, évidemment. Ce qui m'a intriguée terriblement dans ce livre, c'est tout ce côté... construction d'une pyramide, parce que c'est vrai qu'on, moi, nous tous, ignares, avant de vous lire, moi complètement de l'Égypte, je n'ai jamais su comment on a élevé les pierres tout en haut de la pyramide. Vous nous racontez un petit peu quel est le procédé, un petit peu à l'intérieur peut-être, mais ce qui est très beau dans ce livre, c'est l'histoire de ce personnage qui est un constructeur, un bâtisseur de pyramides. C'est ça qui est beau, c'est ça qui m'a fasciné, moi, dans ce livre. Est-ce qu'on essaye de le résumer aussi? C'est nul de résumer un livre, c'est sûr. Mais au moins de donner un petit peu une idée pour ceux qui hésitent entre les deux.
Non, les deux idées fondamentales de ce livre sont les suivantes. Ça fait à peu près 50 ans que, comme beaucoup de mes confrères égyptologues, j'essaye de comprendre comment ces monuments ont été bâtis. Parce que, même avec les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'on arriverait. Tellement, et particulièrement la Grande Pyramide, qui est un monument tout à fait à part, dont je ne vais pas commencer à vous parler, parce que sinon on est encore là ce soir.
15 hectares à la base et 147...
Oui, absolument. C'est absolument...
Ça me stresse, ça. Voilà,
c'est absolument hallucinant. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ce sont des blocs monolithes dont certains pèsent plusieurs tonnes et que vous ne pouvez pas passer une feuille de papier à cigarette entre les deux blocs. Il n'y a pas de mortier. Donc, comment ça tient? Comment ça a été élevé? Ça fait beaucoup d'années qu'on essaie de le comprendre. Grâce à des découvertes relativement récentes, on a pu reconstituer à peu près 80% de la façon dont ils avaient travaillé. Donc ça m'intéressait déjà de raconter ça. Puis surtout, ce que je voulais voir aussi, c'était de voir, c'est de la construction de ce monument qui a grosso modo duré 25 ans, à travers les yeux d'un jeune gars qui part de rien, qui est en conflit total avec sa famille, qui ne veut pas être paysan. Et s'il ne veut pas être paysan, il va se faire engager sur un chantier. Et donc, il a un caractère de cochon, il est intraitable, et il va rentrer dans une équipe de bâtisseurs. Et je dirais qu'il va, en construisant la Grande Pyramide, il va se construire lui-même. Il va apprendre ce que c'est que l'harmonie, ce que c'est que l'obéissance, ce que c'est que les proportions, ce que c'est que la matière, parce que quand on manie les outils de tailleur de pierre, on se fait mal aux mains. Et en même temps, je voulais aussi montrer la société égyptienne, parce que alors, malheureusement, ça continue encore. L'esclavage, on a encore ça dans les manuels scolaires. Il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte ancienne. L'esclavage était introduit par les Grecs à l'époque ptolémaïque, donc sur la fin de l'Égypte. Et les bâtisseurs de pyramides, c'était le sommet de la société égyptienne, puisque ces gens, ils bâtissaient quoi ? Ils ne bâtissaient pas un garage, ils ne bâtissaient pas un immeuble d'habitation, ils bâtissaient une demeure d'éternité. Une demeure qui était pour abriter l'âme royale qui elle-même irriguait et fécondait toute la société. Et sans la pyramide, il n'y a pas d'Égypte. Donc, ils étaient véritablement, j'allais dire une énormité, ils étaient l'ENA égyptienne, mais je préfère, quand je vois ce que... Pardon.
Non,
pas de digression par rapport à... Voilà. Mais c'était... Donc, ils avaient une ville de pyramide, ils avaient évidemment des maisons, ils étaient nourris, payés, logés, blanchis par l'État pour faire l'œuvre extraordinaire sur laquelle reposait tout l'État et toute la société.
Voilà, je passe. Je voulais aussi, mais j'en profite là pour la poser cette question avant de passer à l'autre livre, parce que j'en ai, je pense, 46 000 questions, mais il faut qu'on laisse les questions au public et il faut que je vous laisse partir aussi à l'heure pour la dédicace. J'avais lu quelque part que vous écrivez encore, malgré le nombre de. Je ne sais même pas combien de livres écrits sous votre nom, sous pseudo, combien de dizaines de romans vous avez écrits. J'ai cru lire quelque part que malgré ce phénoménal succès, malgré tout ce que vous avez déjà écrit sur l'Égypte, vous avez encore une discipline de fer qui vous astreint à écrire une douzaine d'heures par jour. Est-ce que c'est vrai ou sont des racontages de journalistes? Parce que voilà, c'est.
Et à la main.
Ah, à la main, je savais même pas. Ah oui.
Oui, à la main, ça c'est sûr. À la main, c'est sûr.
Ah oui.
Oui, 12 heures par jour, on est plutôt vers 14.
Ah, 7 jours sur 7. Ça, je ne l'ai même pas dit parce que ça me paraissait tellement énorme, mais maintenant, c'est 14, c'est peut-être possible.
Si, bah oui, c'est ça. Oui, heureusement que j'ai une épouse très attentive qui me rappelle de temps en temps que, par exemple, c'est un jour de fête ou un jour de vacances. Parce que pour moi, ça, très honnêtement, ça, j'ai oublié depuis de très, très nombreuses années. Oui, c'est une discipline, de faire. C'est une discipline, c'est-à-dire qu'il y a l'écriture, il y a la documentation, il y a la lecture, il y a la mise en fiche, il y a ce que l'on appelle, et ça, c'est vraiment le plus difficile dans le métier que connaissent, mais bien sûr, tous les écrivains, ce sont les épreuves à corriger. Et ça s'appelle des épreuves, ça porte très bien son nom. Mais oui, j'écris lentement, mais tout le temps. Voilà, c'est ça la méthode, c'est pas trop difficile à suivre.
Et votre épouse, je sais qu'elle vous a énormément encouragé, c'est elle-même qui vous a extirpé de Paris pour vous mettre un peu au vert et vous permettre d'écrire. Est-elle jalouse de l'écriture et de ce temps que vous consacrez à l'écriture ?
Ben écoutez, nous sommes mariés maintenant depuis 52 ans, donc je pense que, vous savez, Agatha Christie disait, c'est très très bien d'épouser un archéologue, parce que plus vous vieillissez, plus il vous appréciera. Alors je crois que nous c'est un peu ça.
Je pense qu'on devrait tout épouser un archéologue, c'est vrai.
Alors... C'est vrai qu'elle a toujours cru en moi, alors que moi-même, je n'y croyais pas spécialement. Et nous avons une vie qui est organisée, au fond, autour des livres. Puisque quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait ? On parle des personnages, on parle de la dernière scène écrite, on parle de ce qu'il faudrait corriger, on parle des projets. Au dîner, on recommence. Quand on se promène en montagne, puisqu'on a quand même la chance de vivre dans un pays magnifique, et ça continue. Donc je dirais qu'on baigne dans un climat de création, me paraît un mot considérable, mais étant donné que moi je crois que tout écrivain est un artisan, c'est quelqu'un d'abord qui écrit avec ses mains, je sais pas, moi en tout cas, bien sûr avec le stylo et le papier, et donc on baigne comme ça dans des projets, et puis on parle. Évidemment, ayant la chance d'écrire, par exemple, sur l'Égypte, qui est une civilisation de plus de 3 millénaires, on a beaucoup de choses à se raconter, en fait. Et ça continue.
Est-ce que, alors, la malédiction de Tankhamon, on va essayer peut-être d'en dire deux mots très rapidement. Le livre s'ouvre sur une biologiste, une savante, agacée par les inepties racontées encore tant de temps après sur Toutankhamon et qui décide, elle, de partir en Égypte avec son équipe pour faire tout un tas de vérifications. Elle va être tuée avec la dague, on dit ?
Oui.
Voilà, avec la dague de Toutankhamon. Alors, c'est là le nœud de l'histoire. Parce que pourquoi est-elle tuée ? Par qui ? Que s'est-il passé ? Et qui est donc, quelle est donc cette malédiction ? Je ne sais pas comment on doit résumer aussi sans dévoiler.
Ben, vous savez, on peut rappeler une chose, c'est que donc, la tombe de Toutankhamon a été découverte en 1922 par le plus grand égyptologue, le plus grand archéologue égyptien qui s'appelait Howard Carter, qui était un Anglais, dont je rappelle qu'il n'avait fait aucune étude, qu'il s'est entièrement formé. Il était peintre animalier, il dessinait admirablement. Le hasard de la vie a fait qu'un archéologue britannique l'a emmené en Égypte. Et là, sur le tas, il a tout appris. Il a appris les hiéroglyphes, il a appris l'égyptologie. Et il s'est mis dans la tête une idée complètement folle, c'est qu'il y avait forcément une tombe inviolée dans cette vallée des rois, parce qu'on avait retrouvé des traces de l'existence d'un certain Toutankhamon, mais dont personne n'avait jamais rien vu. Donc il a tiré une conclusion parfaitement intelligente en disant, si on n'a vu aucun objet, c'est qu'ils sont toujours dans une tombe et que cette tombe est intacte. Et ses confrères égyptologues ne lui ont jamais pardonné sa découverte. Jamais. Il n'a même pas eu de décoration. Il n'a même pas eu celle du postier anglais méritant pour avoir travaillé 30 ans à la poste anglaise. Rien. Et c'est lui qui nous a apporté cette découverte fabuleuse. Alors à l'époque, on en parlait absolument tous les jours. Pendant pratiquement 2 années, tous les médias, il n'y avait pas à ce moment-là évidemment Internet, la télévision, mais il y avait déjà la radio, il y avait beaucoup de journaux, et c'était en une partout. Et il y a un archéologue, très très jaloux du succès de Carter, qui a en quelque sorte inventé la malédiction de Toutankhamon. C'est-à-dire qu'il a dit, ah, un tel est rentré dans le tombeau, un tel est rentré dans le tombeau, ils sont morts. L'un est mort de ceci, l'autre est mort de ceci, l'autre est mort de cela. Alors, entre égyptologues, c'est une discussion depuis toujours. Est-ce qu'il y a vraiment une malédiction de Toutankhamon ? Et alors, bon, ben voilà, le livre parle là-dessus. Il semblerait qu'il soit de retour et que ça se passe très mal pour certains.
Mais vous êtes toujours là, même si vous y avez touché.
Écoutez, moi, j'ai passé des heures avec mon épouse, parmi les plus belles heures de notre vie, on les a passées dans des tombes. Mais quand je dis ça...
Et d'ailleurs, dès votre voyage de noces à 17 ans...
Mais oui, non, mais je veux dire, ça paraît bizarre de dire ça, seulement c'est nous qui appelons ça des tombes. Les anciens Égyptiens, pour eux, ce n'était pas des tombes. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps, la momie, elle est dans un endroit particulier qui est... Ça, c'est une tombe. Mais ce que nous visitons à l'heure actuelle, ce sont des chapelles qui étaient autrefois, d'ailleurs, ouvertes, en quelque sorte, à tout le monde. Et qu'est-ce que vous avez dans ces admirables chapelles, que ce soit de l'Ancien Empire, du Nouvel Empire ou autre ? Vous avez des couleurs absolument fabuleuses. Moi, à chaque fois que j'ai fait découvrir à des gens qui ne connaissaient pas, entre guillemets, les tombes de la Vallée des Rois ou des artisans ou autres, ils regardent, ils sont émerveillés. Des bleus, des ors, des blancs, des personnages, ça éclate de vie. Donc vous n'êtes pas du tout dans le domaine de la mort, vous êtes dans le domaine de la vie transfigurée. Vous êtes dans le domaine de la vie ressuscitée, vous êtes dans le domaine de la lumière. Donc c'est vraiment les meilleurs endroits où passer votre vie, il n'y a pas de doute.
Merci infiniment Christian Jacques.